Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Sylvie Franchet d'Espéré, prédicatrice de l'Église protestante unie de France, avec l'assistance de Philippe Cagnon. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chers amis et auditeurs de Radio Alliance Plus, voici le temps du culte. Un culte qui vogue sur les ondes jusqu'à chacun, chacune de vous, à la ville ou à la campagne, à la maison ou à l'hôpital, seul ou entouré. La voix se propage et elle propage les paroles de la Bible, les paroles de la vie. Alors, écoutons. Et écoutons pour commencer comment le psalmiste exprime sa louange à Dieu.
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusque aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
Et maintenant, écoutons la volonté de Dieu pour nous. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Placé devant ta volonté, ô notre Dieu, nous prenons conscience de notre incapacité à t'obéir et nous te demandons pardon.
Père, si j'ai causé de la douleur ou du chagrin, si par ma faute quelqu'un a pu tomber, pardonne-moi. Si j'ai parlé en vain sans mesurer l'impact de mes paroles, si j'ai laissé sans aide celui ou celle que tu avais mis sur mon chemin, si j'ai détourné les yeux de son malheur, pardonne-moi.
Si j'ai refusé d'aller à toi, comptant sur mes propres forces, si je t'ai renié, par mon silence et ma lâcheté. Pardonne-moi. Si j'ai préféré vivre dans le confort, fuir le combat et m'épargner tout effort, alors que tu me voulais au fort de la lutte, pardonne-moi.
Je t'en prie, ô mon Père, fais que le mal n'ait pas raison de moi. Donne-moi la force nécessaire et fais-moi marcher sur ton chemin. Amen.
Le Seigneur est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, ici et maintenant. Nous pouvons avancer dans la confiance.
Toi qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. C'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi.
Et maintenant, nous écoutons la Bible. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes rendez-vous dans ta parole. Nous voici. Fais qu'elle nous éclaire et qu'elle emplisse nos cœurs de ton amour. Amen.
Deutéronome, chapitre 6, versets 2 à 6. Aime le Seigneur ton Dieu. Voici les commandements, les décrets et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt vous emparer. Tu apprendras ainsi, tout au long de ton existence, à reconnaître l'autorité du Seigneur, ton Dieu, et à obéir aux décrets et aux commandements que je t'ai donnés, pour toi et pour tes descendants, afin que tu jouisses d'une longue vie. Tiens-en compte, Israël, et veille à les mettre en pratique. Tu y trouveras le bonheur et tu deviendras un peuple nombreux dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel, comme l'a promis le Seigneur, Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras, ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes.
Et maintenant, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes, qui les avait entendus débattre, et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander. « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Le scribe lui dit, « C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est là dans ce qui fait le cœur de la vie chrétienne. Dieu est amour, nous sommes appelés à l'aimer et à aimer notre prochain. Faut-il vraiment en dire plus? Après tout, on pourrait s'arrêter là et simplement écouter. Écoutez en profondeur ce double commandement. Un peu de musique pour accompagner, et cela suffirait. Pourtant, il est permis de creuser autour, car il y a un contexte, et de creuser en profondeur, parce que l'amour est infini. D'abord, ce texte, comme beaucoup d'autres dans les évangiles, est une rencontre. Ce sera mon premier point. Dans ce chapitre de l'évangile de Marc, Jésus est interrogé par diverses personnes sur sa doctrine, sur sa manière de lire les textes de l'Écriture, sur sa manière d'interpréter la loi de Dieu. C'est intéressant car on voit que les différents courants du judaïsme cherchent à discuter avec lui. Et Jésus accepte la discussion. Il arrive que les questions qu'on lui pose soient un piège. C'est justement le cas de la question précédente qui porte sur la résurrection. Elle est posée par des Sadducéens. Et les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Il s'agit bien sûr de la résurrection des morts. Et du coup, ils tentent de mettre Jésus en difficulté. En vain. Ici, dans notre passage, il s'agit d'un scribe, c'est-à-dire d'un spécialiste des Écritures, comme le traduit la Bible en français courant, d'un interprète de la loi, de la Torah. Les scribes dans les évangiles sont souvent associés aux pharisiens et, comme eux, souvent critiqués par Jésus. Rien de tel dans notre passage. On a affaire, chose rare, à un scribe sympathique, un scribe ouvert, qui est d'accord avec Jésus. Et finalement, Jésus est d'accord avec lui. Deux remarques à ce propos. D'abord, Jésus n'a pas d'a priori. Il parle avec tout le monde. Il ne condamne aucune personne, aucun groupe, pour ce qu'il est. Il peut les condamner, en revanche, pour ce qu'ils font. Deuxièmement, les dialogues avec Jésus ne sont pas forcément des débats. Ils visent d'abord à susciter chez l'interlocuteur une compréhension de la vérité, une révélation intérieure et une transformation en profondeur. Alors notre scribe a entendu la discussion de Jésus avec les Sadducéens et comme il ne les aime guère, hein, ce sont deux groupes rivaux et opposés, eh bien il est assez content de voir que Jésus a déjoué leur piège. À son tour, il pose une question. Quel est le premier de tous les commandements? Ça nous paraît un peu bizarre comme question. Ce n'est sans doute pas la première chose que nous demanderions à Jésus s'il nous était donné de le rencontrer. Elle ressemble trop à la vérification d'un catéchisme, cette question. Et encore d'un catéchisme à l'ancienne mode. Alors, est-ce que par hasard, le scribe ne voudrait pas lui aussi coincer Jésus, le mettre en difficulté? La suite, à mon avis, montre que non. C'est une question sincère, une question qui l'intéresse, sans doute parce qu'elle est débattue dans son milieu. D'ailleurs, après avoir entendu la réponse de Jésus, il lui dit « Tu as dit avec vérité ou tu as dit vrai ?» Et il prolonge cette réponse en ajoutant une remarque de son cru qui montre chez lui un vrai désir d'aller au fond des choses, une capacité à comprendre et à évaluer. Je relis « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force » et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Et Jésus, à son tour, voit qu'il a répondu, dit l'évangéliste Marc, avec sagesse. On assiste là à une conversation entre deux rabbis, deux maîtres, qui semblent à égalité. Mais il y a un moment où Jésus sort de la simple discussion sur l'interprétation des Écritures pour entrer dans une autre dimension. C'est lorsqu'il dit au scribe « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». C'est une parole très particulière. Imaginez qu'on vous la dise, à vous. Ne serait-ce pas étrange? C'est une parole encourageante, mais mystérieuse. Et puis, il devait y avoir dans le ton de Jésus quelque chose de grave. Enfin, c'est une affirmation, mais c'est aussi une promesse. Tu n'es pas loin. Pas loin, ça veut dire qu'il y est presque, qu'il est appelé à continuer sur cette voie. Et là, oui, il trouvera le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il entrera dans une proximité avec Dieu et, je le crois, qu'il verra le monde comme Dieu le voit. On a l'impression que Jésus voit à travers la personne du scribe, à travers son intelligence jusqu'à son âme. Et surtout, on perçoit dans ses paroles quelque chose de ce que l'Évangile appelle ailleurs son autorité. D'ailleurs, après cette phrase, plus personne n'ose l'interroger. Si Jésus parle comme il le fait, si sa parole s'impose, ce n'est pas seulement dû à son charisme personnel, c'est parce que cette autorité, elle lui vient de son Père, de Dieu. Mais cela, le scribe ne le sait pas, pas encore. J'imagine qu'il l'a méditée, cette parole, les jours suivants et longtemps après. J'imagine qu'elle lui est revenue à l'esprit pendant des années. Assurément, cette rencontre aura été un moment fort dans sa vie. Passons à l'objet de cette rencontre, à ces deux commandements que l'on appelle souvent le sommaire de la loi. Et cette loi, c'est celle de la Torah, telle que nous la livre le Premier Testament, et notamment le Pentateuque. Il y a quand même une étrangeté. Le scribe demande quel est le premier commandement, et Jésus lui en donne deux, le premier et le second. Et il va les chercher dans deux livres différents de la Torah, le Deutéronome et le Lévitique. Je lis ces deux passages. Le premier, nous d'ailleurs, nous l'avons entendu. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Deutéronome 6. Puis Lévitique 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit donc que ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, l'amour, est déjà présent dans le Premier Testament. Ce n'est donc pas l'amour qui fait l'originalité du christianisme. Et cela, nous le savons, personne n'a le monopole de l'amour. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité du christianisme? Eh bien, c'est le fait que Jésus ait incarné cet amour d'une façon parfaite durant sa vie et qu'il l'ait vécu jusqu'à la mort sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jean, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous sommes dans l'évangile de Marc, au milieu d'une conversation entre Jésus et un scribe, au moment où Jésus rappelle les deux commandements de l'amour, amour de Dieu et amour du prochain. Je vais maintenant poser deux questions. Premièrement, qu'est-ce que cela veut dire, aimer Dieu? Deuxièmement, comment comprendre l'association de ces deux commandements? Aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Il me semble que pour les Juifs de l'Ancien Testament, cela ne posait pas de problème. Il y a chez les grands personnages bibliques une sorte de compagnonnage avec Dieu qui leur parle et à qui ils parlent. Certainement, Abraham ou Moïse ou Élie aiment Dieu. D'un amour plein de crainte, plein de révérence. Pour nous, c'est différent. Dieu a pris un visage. Il s'est incarné en Jésus-Christ. L'idée d'aimer Jésus, qui a été un homme, est plus facile que l'idée d'aimer Dieu, qui est plutôt une abstraction, même si on a eu longtemps tendance à lui donner une apparence humaine. Alors, que veut dire exactement « aimer » dans ce cas? Le français est pauvre, exprimant par le même mot l'amour charnel, l'amour fraternel et l'amour spirituel. Aimer Dieu, aimer cette abstraction, en tout cas cette réalité insaisissable par nature, cet être qui est pour nous à la fois une puissance, une présence et un esprit, cela ne va décidément pas de soi. Je fais une hypothèse. Est-ce que l'énumération qui suit dans la phrase ne serait pas là pour l'expliquer? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Plutôt que d'essayer de définir chacun de ces éléments en fonction d'une anthropologie biblique, ce qui est une démarche tout à fait légitime et qui est souvent fait, ne vaudrait-il pas mieux y voir une tentative pour définir, ou du moins pour décrire cet amour? Une tentative qui procède par accumulation, car autrement, on n'y arriverait pas, on ne pourrait pas le dire. Finalement, le sens est « c'est un amour qui prend tout notre être ». Et si cela n'était pas réservé aux grands mystiques, si cela était vrai pour nous, pour toi, pour moi. Mais il reste encore une difficulté. Comment peut-on ordonner d'aimer? L'amour ne doit-il pas être spontané? C'est qu'ici, bien évidemment, l'amour n'est pas un sentiment. En fait, dans le Premier Testament, Dieu donne sa loi, ses commandements, justement pour que l'homme puisse l'aimer. Et c'est en obéissant à la loi, en mettant en pratique les commandements, qu'on aime Dieu, parce qu'on lui montre qu'on l'aime, et on le fait par des gestes. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Si Jésus a remplacé la loi, s'il nous est donné comme la parfaite incarnation de l'amour, eh bien, c'est un chemin bien difficile qu'il nous montre. Pour lui, pour Jésus, aimer Dieu, c'est obéir à son Père, non pas comme une soumission, mais comme une adhésion à sa volonté. Ils ne font qu'un. Et pour nous, les chrétiens, ses disciples, qu'en est-il ? Nous n'avons évidemment pas la même relation à Dieu que Jésus. Comment aimer Dieu comme lui ? Eh bien, dans sa réponse aux scribes, il nous aide sur ce chemin. Notre manière d'aimer Dieu est donnée par le second commandement : tu aimeras ton prochain comme toi-même. On comprend dès lors que si Jésus cite deux commandements, alors que le scribe en demandait un seul, c'est que les deux commandements sont liés. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas surpris. L'amour du prochain, c'est la base. On aurait presque tendance à faire passer le second commandement avant le premier. Aimer son prochain, c'est l'agapé, c'est la charité, caritas, c'est l'amour fraternel, c'est le service. C'est ce que nous essayons tous de faire, plus ou moins maladroitement. Après tout, c'est le plus important, et à la limite, cela pourrait suffire. Or, Jésus donne bel et bien deux commandements, le premier et le second. Voyons cela. D'un côté, il est vrai qu'aimer Dieu seulement n'est pas juste. À la vérité, ce n'est même pas possible. Rappelons-nous ce verset de la première épître de Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Cela, nous le comprenons très bien. Mais, puisqu'il y a deux commandements, on doit admettre que l'inverse est vrai aussi. On ne peut pas dire qu'en aimant son prochain seulement, on aime automatiquement Dieu. Ah, objection. Il y a le texte sur le jugement des nations, Matthieu 25, qui semble faire l'économie du premier commandement. J'en lis un passage. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui diront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de faire tout cela ? Et le roi leur répondra, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, c'est vrai, on peut servir Dieu et donc aimer Dieu, sans le savoir, en aimant et en servant son prochain. Mais dans ce texte de Matthieu, il est question des nations, c'est-à-dire des non-croyants. Forcément, ils ne peuvent pas savoir. Il en va autrement pour les disciples, pour les chrétiens que nous sommes. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur Dieu, le gober, l'exclure de nos actions, même les plus généreuses. Permettez-moi de citer ici Jean Valette, qui a été pasteur dans la région, naguère, et qui a écrit un très beau commentaire de l'évangile de Marc. Le chrétien, dit-il, n'aime pas Dieu quand il n'aime que Dieu, puisqu'il néglige celui que Dieu aime et pour qui son Fils a donné sa vie. Mais le chrétien n'aime pas non plus son prochain quand il n'aime que son prochain, parce qu'il ne l'aime pas dans la conscience de la dignité et de la grandeur que lui confère la présence du Christ en lui. Les deux commandements ne sont pas au choix. Les deux commandements sont donc aussi nécessaires l'un que l'autre, mais ils sont également nécessaires l'un à l'autre. Ils sont interdépendants. Ils forment un tout parce qu'ils sont tous les deux fondés sur l'amour. Eh bien, je crois qu'en les réunissant, en créant ce sommaire de la loi, Jésus, comme l'a fort bien compris le scribe, transforme la notion même de commandement. Le commandement n'est pas un cadre qui pose des barrières en disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il est un centre qui irradie vers l'extérieur, vers la vie dans toutes ses dimensions. Le commandement n'est pas une règle qui s'impose à nous, il est une source qui nous fait vivre. car l'amour ne se laisse pas enfermer. Il est une puissance dynamique qui imprègne et libère toutes les personnes qu'il touche. Le double commandement de l'amour, amour de Dieu et amour du prochain, nous est donné comme une source d'eau vive. Amen. Nous réunissons en pensée pour confesser la foi chrétienne.
Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie.
Je crois en son Fils, Jésus-Christ, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant.
Je crois en l'Esprit Saint, qui nous a fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre.
Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie.
Je crois à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen.
Nous prions pour les autres. Ô notre Dieu, notre Père, au moment de te présenter le monde, nous sommes saisis d'effroi. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme lorsqu'il se montre cruel, lorsqu'il se réclame de toi pour faire ce qui est mal à tes yeux. Nous ne comprenons pas parfois ce qui se passe dans notre propre cœur, lorsqu'il se trouve aspiré dans la haine ou paralysé par la terreur. Nous te présentons toute la souffrance du monde, auprès et au loin. Nous te prions pour toutes les victimes de la guerre, du terrorisme et de toute forme d'injustice. Nous ne savons pas toujours comment faire pour être fidèles à notre vocation de chrétien. Et dans notre désarroi, nous nous tournons vers toi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, bénis. Seigneur, délivre. Nous te présentons ceux qui nous sont proches, nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis. Tu sais toi-même de quoi ils ont besoin. Bénis-les, Seigneur. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, entends notre prière et bénis tes enfants. Amen. Notre culte va s'achever, mais le lien demeure. Le Seigneur nous accompagne jour après jour. Et pour finir, nous vous invitons à faire monter ensemble vers Dieu la prière de ses enfants.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Sylvie Franchet d'Espéré, prédicatrice de l'Église protestante unie de Nîmes, avec la participation de Philippe Cagnon. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.